Donc, Philippe, on aurait aimé que pour cette 110e saison de l'histoire du club de hockey canadien, ce soit, disons, des résultats plus intéressants. Et c'est ce soir que les 110 années d'existence du club vont être soulignées. Est-ce que ça va inspirer le club?
Ben, il faut le souhaiter parce qu'il va y avoir du beau monde au Centre Bell ce soir. Je pense à tous ces anciens capitaines du Canadien. Quelques noms, Yvan Cournoyer, Sako Koivu, Bob Gainey, Guy Carbonneau, Serge Chavard qui sera là également. Et tu sais que pendant l'échauffement d'avant-match, les joueurs du Canadien vont porter des gilets d'anciens joueurs qui les ont inspirés. Alors, il y en aura un avec le numéro 4 de Jean Béliveau, le numéro Max Domi, par exemple, aura le numéro 10 de Guy Lafleur. Et on me dit que quand les joueurs, il y a quelques jours, ont choisi le numéro du joueur qu'ils allaient incarner pendant la période d'échauffement, que c'était comme une cour d'école. Là. Ils étaient tous super excités. Moi, je veux lui. Moi, je veux lui. Et puis, les gens du Canadien sont contents parce que ça permet de connecter la génération actuelle de joueurs avec leurs prédécesseurs dont l'histoire est si riche. Alors, tu sais, comme phénomène psychologique, si tu veux, comme élément de motivation, c'est assez intéressant. Alors, je pense que s'il y a un match où tu veux assister à la période d'échauffement, c'est bien celui de ce soir pour voir ça, les joueurs qui vont porter des numéros d'ancienne gloire.
Mais c'est intéressant, Philippe, quoi, que tu mentionnes là, le lien avec les années glorieuses du club, les Béliveau, les Lafleur, etc. La question que je me pose souvent, c'est là, on peut encore faire du kilométrage sur, disons, sur ces époques glorieuses. Ouais. Les joueurs sont encore vivants, heureusement, sont encore avec nous. Il y en a beaucoup, en tout cas. Dans 20 ans, là, si on regarde, disons, les 20 dernières années, là, il y en a combien de joueurs du Canadien qui peuvent aspirer à ce statut de légende?
Ben, tu sais, dans le moment, je pense sincèrement qu'il n'y en a pas. Alors, il va falloir que ça change. Il va falloir que tout à coup...
Carey Price, présentement, disons.
Oui, mais encore là, Carey Price, tu sais, c'est bien, mais le mieux qu'il a fait dans le chandail du Canadien, c'est une participation à la demi-finale de la Coupe Stanley. C'est le plus grand succès chez les pros. Il les a eu avec les équipes nationales du Canada, autant au championnat du monde qu'aux Jeux olympiques, puis c'est très bien. Puis avec le Canadien, il a gagné des trophées individuels. Mais fondamentalement, c'est un sport d'équipe. Tu veux gagner une Coupe Stanley. Et moi, je vois Carey Price, à l'heure actuelle, c'est le seul trophée qui n'est pas encore à sa feuille de route. Oui. Et lui, il doit avoir hâte. Et là, ce qu'il doit voir cette année, ça doit être un brin décourageant. Alors, on regarde ça. T'en parlais tantôt, Patrick, et c'est notre ami Mario Tremblay, qui, la semaine dernière, aux amateurs de sport, dans une conversation avec Mario Langlois, a lancé une bombe en disant, coudonc, la seule personne que je vois pour relancer le Canadien à l'heure actuelle comme entraîneur, parce que ça manque de dynamisme, cette personne là coach les Remparts de Québec. Hey. Alors, d'entendre Mario Tremblay, quand on connaît le lien...
C'est à vous que j'ai failli faire une sortie de route.
Ben, je comprends, parce que à peu près n'importe quel autre analyste aurait dit ça, puis on aurait dit « Ah, voilà une suggestion intéressante », mais Mario Tremblay, on le sait, il a été au cœur du départ de Patrick Roy de Montréal à l'époque, en 1995. C'est une histoire qui a marqué l'histoire sportive montréalaise. Quand on a souligné en 2015 le 20e anniversaire de ça, il y a eu des pages dans les journaux, tu sais, c'est vraiment un moment important. Alors que Patrick Roy soit suggéré par Mario Tremblay, c'est intéressant.
Et là, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi, je pense, ça fait longtemps, Patrick, que je pense que Patrick Roy, c'est l'électrochoc dont a besoin le Canadien. Je l'ai dit avant même qu'on embauche Marc Bergevin. Là, quand le règne précédent, le règne de Pierre Gauthier et Randy Connayworth était en train d'achever à la fin de la saison 2011-2012, pour moi, Patrick Roy devait être un candidat pour à tout le moins le poste d'entraîneur à l'époque. Bon, ça n'a pas été lui et on sent que Marc Bergevin n'a jamais étudié sérieusement sa candidature. Alors, je ne vois pas du tout ces deux personnes-là travailler ensemble. Je ne pense pas que ça pourrait fonctionner. Ce sont deux gars à la très forte personnalité, beaucoup de confiance en eux. Tu sais, même le Centre Bell, c'est grand, là, mais pour les deux, je pense que ce serait trop petit. Je ne pense pas que ça pourrait fonctionner.
Donc, alors, un scénario où Patrick Roy reviendrait dans l'organisation du Canadien, pour toi, ça passe par un départ de Bergevin.
Oui, tout à fait. Et peu importe qu'on lui confie un rôle simple ou un rôle double, il y a des gens qui disent écoutez, non, aujourd'hui, on ne peut pas faire les deux jobs, directeur général et entraîneur dans la Ligue nationale. Ben, écoutez, c'est à peu près ce que Belichick fait avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre et de multiples entraîneurs de la NFL. Évidemment, il faut que tu t'entoures bien de plusieurs adjoints, mais au bout du compte, ça veut dire que les décisions de personnel, c'est toi qui les prends, c'est toi qui valides ou non une transaction. Mais on n'en est pas là, mais quand même, aujourd'hui, c'est assez intéressant. C'est notre collègue Stéphane Turcot de TVA Sport qui est à Québec et qui, sur Twitter, aujourd'hui, a mis des extraits de ce que Patrick Roy a déclaré parce que son équipe, les Remparts de Québec, Patrick, ça va très mal. 15 défaites, pardon, dans les 19 derniers matchs. Alors, Patrick Québécois a fait son mea culpa aujourd'hui en disant, écoutez, des fois on blâme les joueurs, mais c'est pas toujours les joueurs qui sont à blâmer. Moi, je suis responsable aussi. Je suis pas content de moi. C'est un, et là je reprends son expression, c'est un wake-up call pour moi, ces échecs-là. J'aime pas ça voir qu'il y a moins de monde au Centre Vidéotron. Je dois être meilleur. Alors, t'entendais Patrick Roy, qui dans une circonstance difficile se donnait comme un tour d'épaule supplémentaire, dignité, confiance, mea culpa. Tu disais, sacré Patrick, il a trouvé le bon moment pour se remettre un peu sous les feux de la rampe. Et après ça, dans un autre extrait de cette conversation-là, il a vanté Claude Julien. Alors de Claude Julien, il a vanté sa patience, son expérience, et il a même dit dans la circonstance actuelle où c'est tellement difficile pour le Canadien, je lui lève mon chapeau. Alors, tu sais, c'est clair que lui, il trouve que Claude Julien fait un bon travail. Alors, on verra bien ce que tout ça va donner, mais c'est clair, on en a parlé, toi et moi, hier, puis pour moi, là, c'est assez fondamental. Jeff Molson ne pourra pas continuer de regarder la situation sans agir. Les gens s'impatientent. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette organisation-là. Et tout à coup, il va falloir qu'il tranche.
Et Philippe, dans une demi-heure, tu vas sortir de ta chronique pour te joindre à notre...
Oui.
On fait un petit tour de table. On a réuni des gens qui sont déçus par le Canadien et qui ont soit choisi de ne plus donner d'argent Canadiens, par exemple, en se départissant de billets de saison, ou qui y songent en coupant le câble parce qu'ils se disent, voilà, moi, ça me coûte X par année parce que je regarde le Canadien et c'est la seule raison pour laquelle j'ai le câble. Mais là, je suis en train de me demander, M. Molson, si je devrais continuer à le faire.
Tout à fait.
Avant qu'on se quitte, équité salariale dans le curling.
Oui, je vais parler de curling.
Je pensais que c'était atteint, ça.
Non, c'était pas atteint, mais des fois, on blague avec le curling. Mais écoute, cette nouvelle-là, c'est très important. C'est la CBC qui nous rapporte ça hier. Le curling au Canada anglais, surtout au Québec,
aussi,
ça fonctionne. Il y a deux grands tournois, un pour les hommes, un pour les femmes. Les hommes, c'est le Brier, puis les femmes, c'est le tournoi Scotties. Et depuis plusieurs années, c'est pas l'équité au niveau des bourses. Et là, il y a une nouvelle présidente et chef de la direction à Curling Canada qui s'appelle Catherine Anderson. Et elle, quand elle est entrée en fonction, elle s'est dit, moi, l'équité salariale, c'est une priorité. Alors, pour la première fois à compter des tournois du printemps, de l'hiver prochain, 2020, les bourses pour les équipes gagnantes, et en fait pour les demi-finalistes, quarts de finalistes, toutes les bourses, eh bien, c'est l'équité. Autant l'équipe championne chez les femmes que chez les hommes gagnera 105 000 $. Et juste pour te donner l'écart, comment c'est un bout de chemin important, l'an dernier, l'équipe masculine au Brier a gagné 100 000 $ et l'équipe féminine a gagné, les champions, 59 000 $. Donc, un écart de 41 000 $, un écart qui est maintenant comblé. Donc, moi, je veux saluer aujourd'hui les gens de Curling Canada qui ont pris une décision qui s'impose puis qui donne, je pense, une belle image du curling parce qu'on sent que, oui, ils croient à ça, l'équité, et ils prennent des mesures en conséquence.
Et c'est une question qui se pose beaucoup dans les autres sports, notamment au tennis, voilà. On en a souvent parlé. Merci Philippe, on te retrouve dans une demi-heure. Et oui, hey, dans quelques minutes, on va parler de sapin de Noël. Est-ce que vous avez déjà monté votre sapin de Noël? Qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement? Est-ce que c'est un sapin artificiel ou un sapin naturel? On va se poser la question avec quelqu'un qui est un peu fâché contre Canadian Tire. Et au retour, la chronique de Valérie Roberts.